Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session des nouvelles sur Radio Kapi. Au sommaire, l'auditeur militaire de la garnison de Butembo ferme 4 cachots illégalement gérés par le service de renseignement militaire des FRDC. C'est dans le but de lutter contre les abus liés à l'insécurité créée par des militaires dans cette contrée. Les travailleurs des magasins tenus par des commerçants indo-pakistanais et autres libanais sont en grève depuis hier lundi. Ils dénoncent notamment les mauvaises conditions de travail dont ils sont victimes depuis des années. L'invité de ce journal est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalima, au Maniema. Docteur Chabani Kiampam-Barabin va nous parler des difficultés qu'affronte cet hôpital dans son fonctionnement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu. L'auditeur militaire de la garnison de Butembo a fermé ce lundi 9 septembre 4 cachots illégalement gérés par les services de renseignement militaire des FRDC dans la ville. Cette action répond aux plaintes croissantes de la population et marque un tournant dans la lutte contre les abus liés à l'insécurité créée par des militaires. Les réseaux pour les droits de l'homme, REDO, applaudit cette décision audacieuse. André Kitenge nous apporte les détails de cette décision importante.
Les cachots concernés incluent ceux du bureau T2 secteur, du département de la sécurité aux frontières, de la 34e région militaire ainsi que des sous-axes militaires. Selon le major magistrat Georges Nkoua, les officiers de police judiciaire doivent se concentrer uniquement sur les affaires touchant au renseignement militaire ou à la sécurité nationale et laisser de côté les questions des droits communs. Le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation basée à Butembo, exprime son soutien total à cette décision. Mouindo Wassivinoa est son coordonnateur.
Les REDO encourage l'auditeur militaire des garnisons de Butembo pour avoir décidé à fermer tous ces cachots tenus illégalement par différents services de sécurité militaire à ville de Butembo. Ces cachots étaient utilisés comme instrument d'extorsion et même de torture pour certaines personnes. C'est une bonne chose car la population était extorquée et torturée dans ses amigos.
L'auditeur militaire précise que cette fermeture fait suite aux demandes de sa hiérarchie et aux plaintes de la population. Dorénavant, tous les services seront centralisés dans un seul cachot sous la supervision directe. La prochaine étape consistera à traquer les militaires et agents non autorisés qui opèrent sous couvert des renseignements militaires dans la ville de Butembo, a-t-il ajouté. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Entre-temps, au moins 4 villages du groupement Bachali Kaembe sont vidés de leurs habitants. C'est dans la chefferie des Bachali, territoire des Masisi. Nous sommes toujours au Nord Kivu. La situation est consécutive à la reprise des combats depuis dimanche dans cette zone entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux. Jusqu'à ce mardi, la situation reste tendue dans cette zone, indiquent nos sources locales. Dimanche 8 septembre et hier lundi 9 septembre, les combats se sont intensifiés dans ces villages du groupement des Bachali Kaembe opposant les rebelles du M23 RDF aux résistants Wazalendo. C'est entre autres dans les villages Mueto, Kanyasi, Kanzenze et Nyamitaba Centre, ce qui selon nos sources aurait entraîné une nouvelle vague de déplacements massifs des populations hors de la zone. À Nitouri, deux nouveaux engins explosifs non explosés ont été découverts par la population dimanche au village de Ndraza et Waliba dans les territoires de Djougou, ce qui porte à 10 les nombres d'explosifs découverts dans plusieurs entités de ces territoires depuis le début de cette année. Selon les services provinciaux de la protection civile qui rapportent ces informations ce mardi, ces bombes auraient été abandonnées par des éléments des différents groupes armés actifs dans cette région. Son coordonnateur, Robert Diallo, indique que cette situation met en danger la vie de centaines de familles qui retournent dans leur village. Alerté par la population, les casques bleus népalais de la MONUSCO se sont dépêchés sur le lieu pour la protection de la population avant l'opération de déminage. La protection civile appelle la population à plus de vigilance face à cette situation qui constitue une menace dans la communauté. Robert Dialonga est joint au téléphone par Martial Kizabiamungu.
Face à cette situation qui devient préoccupante, il est vrai que comme nous avons dit, avec la calmie, il y a plusieurs zones qui dans le temps avaient fait l'objet des attaques de groupes armés et actuellement, on a enregistré des cas de retour volontaire de déplacés ou soit de personnes qui y vont pour les activités chapitres et où ils reviennent et que c'était des zones qui faisaient l'objet des attaques et avec possibilité qu'au retour, ils se retrouvent face à des enjeux qui ne seraient pas explosés et où ils doivent aussi se sensibiliser à famille, à communauté pour que qu'ils ne soient pas victimes de tout ce qu'il y a comme enjeux et qui ne doivent pas se donner à des ramassages.
Direction la province du Tanganyika où les territoires des Moba fait face à la recrudescence du banditisme. À Moba, il y a aussi les délabrements des routes, l'inondation du port et d'autres problèmes. Constat fait par les députés nationaux élus des Moba, Christian Mwando, qui revient des vacances parlementaires. Il l'a fait savoir à la presse hier à Kalemie. Face à cette situation, cet élu du peuple invite le chef de l'État de descendre à l'intérieur du pays pour qu'il se rende compte de tous ces problèmes. Paul Mounanga.
Pour le député Christian Mwando, la situation sécuritaire est préoccupante dans les territoires des Moba. Des hommes en uniforme non autrement identifiés sèment la terreur. Ils s'attaquent régulièrement à des maisons, agressent les habitants et volent leurs biens.
La question qui préoccupe encore davantage la population, c'est la question sécuritaire. L'insécurité bat son plein. Les gens n'arrivent même plus à aller au champ. Tous les jours, ce sont des attaques, des dizaines de maisons qui sont pratiquement pillées par des hommes en uniforme. Et ça crée une désolation au niveau de la population.
En outre, Christian Mwando craint que le territoire des Moba soit enclavé à cause de l'état de délabrement des routes et du port. Il déplore aussi les conditions difficiles dans lesquelles vivent les enseignants et les personnels médicaux.
Si on y prend garde, d'ici là, le territoire de Moba sera totalement enclavé. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de route. Et je crois qu'à Kinshasa, nous sommes un peu en train de nous amuser.
Les députés nationaux invitent les chefs de l'État à organiser des missions à l'intérieur du pays pour qu'ils se rendent compte de tous ces problèmes.
Nous demandons tout simplement aujourd'hui que le chef de l'État arrête de se promener à l'extérieur du pays, qu'il vienne à Moba, qu'il aille à Nyunzu, qu'il aille à Kabalo, qu'il aille à Lokolela, qu'il aille à l'intérieur du pays et qu'il parle avec le peuple profond et que la réalité sur le terrain est désolante.
Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, les travailleurs des magasins tenus par des commerçants indo-pakistanais et autres libanais sont en grève depuis hier lundi. Ils dénoncent notamment les mauvaises conditions de travail. Ils affirment avoir entamé des démarches auprès des autorités sans que ces dernières ne trouvent une solution à leurs problèmes. Une situation qui dure des années, ajoute-t-il. On écoute Jean Bakayanga, président de l'intersyndicale du secteur des commerces, au micro d'Arcel Kajourou.
Depuis, nous avons écrit au ministre, nous avons déposé un cahier de charges il y a 15 jours pour revendiquer 3 points. Que les maisons de placement, qu'on appelle les SPP, qui ne facturent plus les prêts de la main d'œuvre, qu'on appelle la sous-traitance. Le deuxième point est relatif au paiement des SMI. Les personnels sont payés à un taux de 1400 francs, alors que le dollar est à 26. Le troisième point, c'est question de l'erreur du travail. Les travailleurs sont réduits à des simples esclaves. Et ces problèmes sont récurrents chaque année. C'est ainsi que nous avons vu le président de la République il y a 5 ans. Tous les ministres se sont succédés au sein du ministère du Travail n'ont pas trouvé une solution à ces simples travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs ont demandé ce jour de voir au moins la première ministre avec le ministre de la Justice qui puisse prendre à bras les corps ce problème ici. Pour que les travailleurs puissent trouver gain de cause. Quel sera le gain de cause qu'on puisse mettre à la pire forme de la sous-traitance, qu'on puisse payer au taux du jour l'indexation du salaire, qu'on puisse harmoniser les problèmes de l'horaire du travail.
Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des employeurs ni celle des autorités. C'est un dossier à suivre. Et puis, la 8e édition d'Expo Béton a ouvert ses portes ce mardi au centre financier de Kinshasa. Cet important rendez-vous qui permet à plusieurs entreprises d'exposer leurs produits se déroule sous les thèmes « Révolution urbaine des solutions durables pour les corridors ouest, Kinshasa et Congo central ». Ces salons réunissent en effet les acteurs publics et privés pour échanger et approfondir les réflexions autour de ces thèmes. Le président Félix Tshisekedi qui a ouvert ses travaux souhaite que la 8e édition d'Expo Béton aboutisse à des résolutions concrètes. On l'écoute dans cet extrait proposé par John Tshibwabwa.
Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024.
Autre nouvelle, les agriculteurs du territoire d'Idjofa éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation. À la base, toutes les routes de dessertes agricoles de cette partie de la province du Kwilu sont dans un état de délabrement très avancé. La société civile locale qui les dit déplore aussi les mauvais états de la route principale qui relie les chefs-lieux de ces territoires à la ville de Kikwit en allant vers Kinshasa. Son président Jean-Marie Bell se plaide auprès du gouvernement central pour la réhabilitation de ces routes d'intérêt économique capital. Il est au micro de Irène Mbomaluzolo.
La route d'Idiofa, à partir de la jonction avec la route numéro 1, c'est très très déplorable en ce qu'elle n'a plus jamais été travaillée. Un véhicule, autrefois, pouvait faire 2 heures de temps, tout au plus 3 heures. Aujourd'hui, vous pouvez faire toute une journée pour atteindre Idiofa ou pour partir de Idiofa pour Kikwit. C'est à 45 km d'Idiofa. Les motards ou les conducteurs ne peuvent pas être à l'aise. Ils doivent souffrir. Donc l'état de la route est très, très déplorable. Surtout quand il va encore pleuvoir, Mamanangaï, ça sera terrible. Et je glisse aussi un mot, il n'y a pas que la route, la voie principale. Toutes les voies de dessert agricole n'existent plus. Il y a des enfants, peut-être 5 ans, qui n'ont jamais vu un véhicule. Il y en a qui arrivent pour la première fois, ils fouillent. Quand ils voient, c'est quelle machine ça? Alors nous demandons au gouvernement qu'il s'occupe, parce qu'il dit, c'est un grigné. Les produits comme les ananas, du manioc, arachides, les voanzos, les pondos, tous les autres, ça part d'Idiofa. Ça peut nourrir la ville de Kinshasa. Mais quand on est bloqué, tout cela ne peut pas arriver. C'est pourquoi il y a hausse des prix.
Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu, où le directeur général des Primera Gold, DRC SA, a rencontré hier lundi 9 septembre les principaux négociants et acheteurs d'or de la province du Sud Kivu. Cette réunion s'est tenue à Batch Hotel à Bukavu, dans le cadre de la relance des activités de cette entreprise spécialisée dans l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Rachel Kiesembangu y a pris part. Voici son reportage.
La rencontre de ce lundi 9 septembre entre les acteurs clés du secteur aurifère et les autorités provinciales est un signal fort de l'engagement de Primera Gold DRC à redonner un nouveau souffle à l'industrie aurifère du Sud Kivu. En instaurant des pratiques plus transparentes et en veillant à la traçabilité de l'or, l'entreprise contribue non seulement à l'économie locale, mais aussi à l'image de la RDC à l'international en tant que fournisseur responsable des matières précieuses. C'est ce qu'a loué le président provincial des négociants d'or du Sud Kivu, Mayani Malingera.
C'est un métier que nous avions fait dans la clandestinité depuis nos parents. L'avènement de Primera nous a aidé à faire à ciel ouvert ce métier. Dans l'ancien temps, avec beaucoup de tracasseries, on ne pouvait rien faire. La fraude exagérée, mais on a fait preuve à l'État congolais. Ensemble, nous avons réfléchi comme négociants. On a donné toute la production l'année passée à Primera Gold. Et ce n'était qu'un rappel. Maintenant, ils venaient nous avertir de s'engager profondément en donnant nos minéraux à Primera Gold. C'est une sensibilisation, j'en suis très ravi.
Joseph Kazibaziba, DG de Primera Gold, quant à lui, continue à réaffirmer sa vision clairement, celle de réguler et formaliser les secteurs aurifères artisanal en RDC. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
En province du Tanganyika, 3 abbés sont portés disparus. Il y a de cela un mois, en effet. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Les abbés Stanislas Kingombe Chadari, Symphorien Kasuku Bikeba et Joseph Mubake Mukulu sont tous 3 du diocèse catholique de Kasongo dans les Maniema. Monseigneur Placide Lubamba Ndjibu, évêque du diocèse catholique de Kasongo, lance à cet effet un avis de recherche. Il demande à toute personne qui détiendrait des informations précises concernant les 3 abbés de les faire connaître au plus vite. Il précise dans ses documents que les 3 prêtres sont attendus au diocèse au plus tard le samedi 5 octobre prochain.
Actualité internationale.
La 57e session du Conseil des droits de l'homme, CDH, de l'ONU s'est ouverte ce lundi 9 septembre au Palais des Nations à Genève avec un agenda bien chargé, dont l'examen de plus de 80 rapports sur la situation des droits humains dans le monde. Les troubles politiques, la régression des droits de femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de cette session. Lors de cette session, le chef des droits de l'homme de l'ONU a également mise en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Durant 5 semaines, le Conseil examinera plus de 80 rapports et tiendra 20 débats interactifs traitant des droits de l'homme.
L'invité.
L'invité de ce journal est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalima. Docteur Chabani Kiapambarabe nous parle des difficultés dans cet hôpital. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Chabani Kiapamba Arabe, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à l'hôpital général de Kalima. Quel est l'état des lieux de cet hôpital à ces jours?
Merci pour la parole. L'hôpital général de Kalima, c'est un hôpital aujourd'hui qui n'est pas construit dans les standards internationaux. Et aujourd'hui, c'est un hôpital qui possède un bâtiment moyenâgeux qui demande une réhabilitation. Et avec des problèmes de gestion des ressources humaines, on a vraiment une main d'œuvre qui nous a été déversée par la société Somenki. Toutes les personnes sont déjà devenues vieux, qui demandent d'aller en retraite. On a les problèmes de matériel. L'hôpital n'a rien. Les matériels que l'hôpital possède, ce sont des matériels qui datent de plus de 5 décennies. Ça demande vraiment d'être remplacé. Voire même les travailleurs au niveau de l'hôpital, un bon nombre de travailleurs ne reçoivent pas la prime, voire même les salaires. À l'occurrence, moi, le médecin directeur qui vous parle, j'ai déjà fait 6 ans en train de travailler à l'État congolais. Je ne suis ni primé ni salarié. Vous voyez, à part ça, il y a d'autres infirmiers. Quelqu'un qui a déjà fait 25 ans, qui attendent d'aller en retraite et qui ne sont ni primé ni salarié.
Docteur, vous vous appelez hôpital général de référence. Vous manquez les matériels, vous manquez les médicaments. Comment vous prenez en charge la population de Kalima?
Bon, évidemment, ça vous fait étonner, non? Bon, pour la prise en charge, nous nous débrions avec nos propres moyens de bord. Vous voyez, la population congolaise s'adapte. Ici, quand un malade arrive, qu'est-ce que nous faisons? Il y a les examens qu'on demande au préalable. Après, on va faire une ordonnance et le malade va chercher les médicaments à l'extérieur de l'hôpital.
Alors, docteur, quand vous avez un cas qui dépasse votre plateau technique, qu'est-ce que vous faites avec ces cas-là?
Normalement, on nous avait appris qu'on a un cas qui nous dépasse, nous transférons.
Où maintenant? C'est vous l'hôpital général?
Oui, nous sommes l'hôpital général, mais nous transférons à l'hôpital provincial de Kindu. Mais dommage, quand on transfère, il y a certaines familles qui accompagnent les malades qui n'arrivent pas à la destination.
Est-ce que quand vous transférez comme ça, vous avez une ambulance?
Nous avons notre ambulance et toujours qui pose un peu de problèmes. Par exemple, les pneus, ça coûte cher. Avec quels frais qu'on doit acheter? C'était les pneus tout neufs.
C'est que quand on transfère un malade de l'hôpital général de Kalima pour l'hôpital provincial, ce malade doit se mettre en tête que c'est sa mort, il peut mourir en cours de route parce que l'état des routes aussi pose problème.
Il ne peut pas mourir, madame, puisque l'ambulance est là. L'ambulance peut arriver à Kindu. Normalement, avant, nous donnons la fiche de transfert et la famille va se mobiliser pour mettre tous les intrants essentiels puisque nous n'avons pas d'abord de carburant. Nous allons dire à la famille d'acheter les carburants.
Tout ça, c'est à la charge de la population.
Oui, à la charge malade. De la population, puisque l'hôpital n'a rien.
Alors, nous venons d'apprendre que vous venez de recevoir plein de médicaments, mais aussi une morgue.
Bien sûr, c'est un acte à louer. D'ailleurs, je félicite son excellence, monsieur le gouverneur. Dans sa première visite, seulement, il a pensé à ses électeurs. C'est un acte auquel nous n'avons jamais vu. La morgue. Je pense que c'est la toute première morgue, même dans les territoires de Pangui.
Ah, c'est l'unique morgue de cette cité?
Oui, c'est la toute première morgue ici.
Cette morgue qu'on vient de vous doter, sa capacité, combien de corps?
C'est 4 corps. Donc, on a 4-4, ça fait 8 corps qui peuvent entrer. Mais en cas de force majeure, on peut même condenser 8 fois 2, ça fait 16 corps.
Avant de bénéficier de cette morgue, comment est-ce que la population faisait avec leurs morts?
Vous voyez ici, ce que je comprends ici chez nous, la population n'avait pas la culture d'enterrer leurs morts d'une façon, d'une manière digne. Parce que comment est-ce que la population faisait? Aussitôt seulement, ils déclaraient l'arrêt cardio-respiratoire irréversible dans la salle d'urgence directement. Les gens, ils entrent et ils récupèrent leur corps et on vient l'exposer ici, à l'extérieur ici. Et c'est là même qu'on peut prendre la moto, on ligote les corps, au vie aussi de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la morgue, je pense qu'on va changer. Vraiment, nous remercions les dons de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Maniema. Qu'à cela ne tienne, nous avons besoin vraiment qui est ressenti ici à l'hôpital, c'est le besoin d'avoir une banque du sang, puisque la banque du sang va nous permettre de sauver beaucoup de vies humaines.
Vous avez parlé de votre radiologie. Est-ce que ça fonctionne normalement?
Cette radio-là, c'est depuis l'époque de Simetin. Mais au cas où nous avons les intras, on fait fonctionner la radio. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que nous manquons les intras.
Alors, je m'imagine que pour la maternité, c'est la même chose pour la salle d'accouchement?
La maternité n'a pas dépassé de problème. Nous ne manquons pas les lits d'accouchement. Mais ce qu'on manque seulement, c'est les intras. Mais nous avons eu, autrefois, là, on a eu les dons de UNFPI.
Docteur Chabani Kiampamba, Rabin, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Docteur Chabani Kiampamba, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalima, s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est par ici que j'ai clos cette édition d'information vespérale sur Radio Kapi, mise en onde par Jean-Claude Ntiala, Pele Kipela Mondo et Richard Junior Kamungambo Achimankinda l'ont respectivement supervisé et coordonné. À la présentation, Patience Ngalulambombo, au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Radio Kapi, nous vous disons merci de nous avoir suivis.